Consonance. De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre. Consonance. Mémoire de nos pères. Un texte de Thibaut Dubreuil sur une lecture de Françoise Comacle.
Un portrait du père. Ah, de mon père! Oui, je comprends. C'est un peu comme ce que racontait monsieur. Mon père ne peut se saisir entièrement qu'avec l'éclairage du passé. La généalogie. Sinon, on se limite à des bouts forcément incomplets. Je m'intéresse beaucoup à ces choses-là. L'influence exercée par ceux qui vivaient avant nous et qui appartiennent à ce groupe qu'on appelle ascendance. C'est un peu comme les planeurs, les ailes volantes qui prennent les vents ascendants. Celui qui cherche doit aller plus haut en fouillant dans l'avant le passé. Bon, parfois, il s'écrase. Regardez le zeppelin. Dans tous les cas, ça éclaire. Et la lumière crue qui s'en dégage est parfois aveuglante. Je sais bien que certains s'en moquent de la psychogénéalogie, qu'on me prend pour une illuminée. Mais au contraire, je suis la Sibylle, l'extra-lucide. Il y a des liens, des actes, des recoupements qui ne peuvent être dus au hasard. J'en ai la preuve. Cette répétition des mêmes erreurs, des mêmes échecs, cette incapacité à les assumer n'est pas fortuite. À l'inverse, les réussites, les joies, les petits bonheurs se suivent aussi. Souvent, la vie des descendants est influencée par ce passé dont ils ignorent tout. Et presque toujours, ça prend la même forme. Je suis la première à avoir établi l'arbre généalogique en lignée paternelle. Et ce que je découvre au fur et à mesure de mes travaux en surprendrait plus d'un dans ma famille. Ou pas, d'ailleurs. Je crois qu'en fait, ça ne les intéresse pas. Eux vivent dans le présent, le futur proche. Ils ne veulent pas savoir. Ils ont sans doute raison. Mais je suis incapable de me raisonner. Mon côté cartésien, je veux comprendre. Mais on m'aime bien dans ma famille. Ça les amuse ce que je fais, même s'ils n'apprécient pas beaucoup quand je viens les titiller, que je gratte le passé. Alors, à mes questions, on détourne la tête, on me répond de travers. Je vois poindre la gêne, je sens que ça coince, surtout pour ceux qui savent des choses qu'ils n'ont pas l'intention de révéler. « Va pas remuer la merde », m'a dit un oncle un jour. « Qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu seras plus heureuse ?»« Non, alors laisse tomber. » C'est surtout de la part des hommes que j'entends ce type de réponse. Au mieux, ils haussent les épaules, prétextant leur mauvaise mémoire. Au pire, on m'envoie balader. Sauf quand ils ont du ressentiment. Et là, ils peuvent balancer. Rarement, ils m'aident. Enfin, ce sont les femmes surtout, les leurs, qui les poussent à répondre. S'ils se taisent, elles attendent qu'ils soient occupés ailleurs pour sortir les cadavres des placards. Elles me confient des photos, des lettres, me transmettent des témoignages oraux dont je ne peux certifier de la véracité, mais que je tente de recouper avec les informations que je possède. C'est à croire que dans ma famille, seules les femmes ont de la mémoire. Parmi elles, certaines ont validé les actes des hommes bien mieux qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Ils ont trouvé là des alliés inattendus. J'ai toujours trouvé étrange cette réaction qui consiste à pousser encore plus loin alors qu'on n'approuve pas. L'attachement de la victime à son bourreau. Mon arrière-grand-mère, par exemple, Suzette, a reproché des années durant à sa belle-fille de ne pas bien s'occuper de son mari. Le mari, c'était son fils chéri, le premier de la lignée, bien plus et bien mieux aimé que celui qui viendra après. Tout ce qu'il faisait avait l'éclat de l'or. Et donc, à chaque fois que mon arrière-grand-mère visitait sa bru, elle lui balançait ses sarcasmes à la tête. « Et tu ne fais pas bien à manger, et ta maison est mal tenue, et soigne donc ton apparence, c'est à croire que tu ignores ce qu'est un homme !» Étrange, non ? On pourrait croire son propos tout droit sorti de la bouche d'un homme. Et puis ce tutoiement, qui n'était guère la norme à l'époque, je pense qu'elle en usait pour la rabaisser. Et quand elle venait déjeuner chez eux, elle était en admiration devant son fils, son Robert chéri, la prunelle de ses yeux. Et qu'est-ce que tu es beau ! Et qu'est-ce qu'il conduit bien, sa vieille mère qui craint les transports ! Jamais elle ne se levait pour donner un coup de main. Et quand la cuisine ne lui plaisait pas, elle haussait les sourcils à la façon d'un maître d'école et repoussait son assiette. L'étude de mon arbre généalogique, que j'étale parfois sur ma table pour en embrasser toute la complexité, explique ce parti pris. Mon arrière-grand-mère a perdu son mari à la guerre de 14 et a tout misé sur ce fils qu'il lui a laissé. Cet orphelin qui s'appelle Robert et que tout le monde surnomme Fifi, car son père tombé dans les tranchées s'appelait Philippe. Pour le second fils, Paul, rien de tout ça. Quand elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, son bel amant au regard clair lui a promis des épousailles. Et le jour du mariage, il n'est pas venu. Je peux imaginer sa honte. Seule avec les invités et un petit qui poussait au-dedans d'elle. J'ai appris qu'elle avait voulu le faire passer. Mais, comprenez bien, on était en 1925. Et quand elle s'est pointée chez la faiseuse d'ange, le délai était largement écoulé. L'avorteuse risquait de la tuer. Alors le Paul, il s'est élevé un peu tout seul. Bizarrement, il a toujours voué un culte à ce père qu'il n'a jamais connu. Après maintes recherches, il a appris qu'il s'était engagé dans les troupes coloniales 2 jours avant ce mariage où il n'est pas venu. Le jour dit, il devait déjà voguer vers les côtes de l'Afrique. C'est là une des caractéristiques des hommes dans ma famille. Ils ne viennent pas. Ils répètent ça, de génération en génération. Et puis leurs prénoms aussi, qui ne sont jamais les bons. Robert, surnommé Fifi, Paul, qui se faisait appeler Antoine, l'oncle Raymond, alias André, même mon arrière-grand-mère Suzette avait pris son second prénom, Marie. Mais revenons à Robert, le Fifi adoré, mon grand-père. Ah, c'est un drôle de bonhomme. Quand il a demandé le divorce, laissant ma grand-mère seule avec 3 enfants à élever et un salaire d'ouvrière dans le textile, mon arrière-grand-mère l'a couvert d'éloges. Lui disant qu'il ne risquait rien à partir, il trouverait bien mieux ailleurs. Un mois après le divorce, elle est passée voir son ex-belle-fille. Ma grand-mère s'attendait à un peu de compassion, peut-être une aide matérielle. Mais au lieu de ça, elle n'a reçu que des reproches, comme quoi elle ne savait pas bien s'occuper d'un homme et que c'était pas étonnant qu'il soit parti. Et quand Fifi s'est fait coincer par la police en plein travail de maquillage de voitures volées, que des belles voitures, voyez le genre, grosse cylindrée. Eh bien, elle a déboulé en lui criant au visage que si elle avait su le garder, jamais il n'aurait fait toutes ces conneries. Ah, elle a toutefois accepté de garder ses petits-enfants de temps en temps. Parmi eux se trouvait mon père, qui, d'après ce qu'il m'en a dit, en a gardé d'excellents souvenirs de drôleries, de jeux et de gâteaux à mamie. Il n'empêche, lui aussi a mis ses pas dans les pas de son père. Thank you. L'absence, la fuite comme élément constitutif des hommes de cette branche, vous ai-je dit. Et pas que ça. Les doubles vies, les faux tiroirs, les faux semblants, les écrans de fumée. Faut dire que chez les paysans, on s'y connaît en matière d'éco-buage. Mais je n'exonère pas les femmes, loin de là. Au plus loin que je remonte dans l'arbre, je ne lis que des divorces. Il n'est pas aisé de savoir qui a demandé la rupture, mais à chaque fois, les hommes se remarient et les femmes restent seules. Les papiers d'état civil et les copies des notaires que j'ai pu obtenir montrent aussi des reconnaissances de paternité tardives, des divisions presque à l'infini des pauvres biens et des terres. Et même une tentative de meurtre dont j'ai retrouvé la trace dans un journal de l'époque. Un fils caché reconnu sur le tard et que personne ne connaît, vient réclamer sa part et se prend un coup de fusil de chasse en plein visage. Il en a perdu un œil et gardé une face ponctuée de petits trous qui lui ont donné son surnom, la grêle. Les choses trappent, les impasses, les doubles fonds, les puits sans fond. Et puis des trucs qui remontent à la surface des décennies plus tard. Ah, j'ai pas fini d'en découvrir. Mon frère me répète que je ne devrais pas me mêler de ça. Lui aussi, il est divorcé. Mais au moins, il s'occupe de ses gamins. On ne gagne rien à ressasser le passé. Vis dans le présent, maintenant que tu es en couple et que c'est solide. Mais je ne lâche rien. Je profite de ce temps que je me suis accordé pour poursuivre ma quête. Robert, alias Fifi, a eu d'autres enfants par la suite, mais on ne sait rien d'eux. Ça m'étonnerait beaucoup que Fifi ait parlé à cette seconde lignée de ses premiers gamins, lui qui ne s'est jamais occupé que de sa personne. Au décès de mon arrière-grand-mère, à l'âge de 105 ans, Paul et Fifi étaient déjà morts. Je suis allée à l'enterrement, plus par curiosité qu'autre chose. Et je me suis manifestée quand on est allé boire un coup au bistrot à la santé de la morte. J'ai expliqué ce que je faisais à des membres de ma famille, à des connaissances de mon arrière-grand-mère. J'avais besoin d'aide, de sources sûres, de documents bien sûr, mais aussi de tout ce qu'il savait. Mon père était là aussi, il aimait bien sa grand-mère. Je suis donc passée de groupe en groupe et une vieille femme m'a alors prise à part. C'était la voisine de mon arrière-grand-mère. 102 ans au compteur. Visiblement, c'est un village qui sait conserver ses vieux. Et c'est là que j'ai appris qu'après Robert et Paul, il y avait eu un troisième fils. Un fils caché. J'ai commencé à la questionner sur la véracité de cette affirmation quand elle m'a interrompu en me disant que c'était elle qui avait accouché mon arrière-grand-mère. Pour éviter qu'on ne voie sa grossesse quand elle se rendait au bourg, c'était elle qui la scindait d'un drap pour compresser son ventre. Mon arrière-grand-mère était menue, 1m45 seulement. C'est passé comme ça. Et puis un matin, il a bien fallu que le gamin sorte. Ah, mais je peux pas vous donner le nom du père. Parce que, vous comprenez, c'est une grande famille de parisis. Ces choses-là ne se font pas. Mais elle m'a appris quand même que le bébé avait été confié à l'assistance publique. Comment voulez-vous que je m'en sorte dans tout cela? Plus je mets l'arbre à jour, plus il est faux. Plus j'en apprends, plus ma vue se brouille. Par moments, je pense que mon frère a raison, que je ferais mieux de jeter tout ça à la poubelle et de passer à autre chose. Je peux pas. Abordons le père à présent, le mien, le pater familias. Celui qui, pour une fille, représente le premier homme dans sa vie. À 10 ans, j'avais déjà tout compris. Ma mère sortait de sa campagne. Elle ne connaissait rien à la vie, rien à l'amour, rien aux hommes. En fait, rien à rien. Elle tombe sur un beau parleur au cours d'un bal. J'ignore ce qu'il a bien pu lui raconter. Il a du charme, c'est certain. Et puis il roule dans une anglaise, avec conduite à droite, une voiture volée que son père lui a vendue. Il est plus ou moins en couple avec une prostituée. Elle l'apprend par une copine, mais elle ne dit rien. Au fond, d'après mes recherches, Mon arrière-grand-mère a bien été la seule à ouvrir sa gueule. Elle s'est trompée de cible à maintes reprises, mais au moins elle n'a pas toujours subi. Ma grand-mère est morte de chagrin, enfermée dans une forme de neurasthénie et pas mal de bondieuserie. Il paraît que dans sa chambre, il y avait un autel à la gloire de son mari, Robert dit Fifi. Une photo, des bougies, sa bague de mariage qu'il lui a donnée quand il est parti et une croix pour tenter de le faire revenir. Une croix dessus, voilà ce qu'elle aurait dû faire. Mais elle a attendu des décennies qu'il revienne. Eh bien, figurez-vous qu'il est revenu. 3 ans avant de mourir, il était là, devant la porte du petit appartement où elle habitait toujours, dans sa banlieue sans intérêt. Bien sûr, elle savait qu'il était malade de tous les excès qu'il avait faits. Mais elle a accepté de le reprendre et de s'occuper de lui. Ils se sont même remariés. Et à cette occasion, Fifi a acheté une autre bague. Ah, dans mon arbre, je n'avais rien prévu pour ce type de mariage. C'est heureux qu'ils fussent bien trop âgés pour avoir des enfants. Il me paye ce qu'il me doit, répétait ma grand-mère à ses voisines incrédules et qui l'avaient tant soutenue quand Fifi s'était barrée. Le jour de son départ, 3 décennies auparavant, il avait franchi le seuil de la maison sa valise à la main en sifflotant et il a rejoint une femme qui l'attendait dans une voiture garée en double fil. Tout ça sous le regard de ses enfants fixés au carreau. J'ignore s'il leur a dit quelque chose. Que peut-on dire dans un cas comme ça? D'ailleurs, quand mon père est parti, il n'a rien dit non plus. 1 an plus tard, ils se sont donc remariés. Ils ont invité pas mal de monde. Il paraît que ma grand-mère était très fière et bien habillée. Je dis, il paraît. Car ils ont oublié quelques invités. Nous. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Avec Fifi, on s'est remariés. On pensait que vous ne viendriez pas. C'est pour ça qu'on ne vous a pas invité. Vous habitez loin quand même. Voilà mot pour mot ce qu'a dit ma grand-mère. Ma mère est une fidèle des traditions. Dans sa constance à ne rien changer, elle ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi on les suivait, ces traditions stupides. Elle le fait toujours, par manie. Il est vraiment dommage que ce jour-là, elle ne se soit pas non plus interrogée sur le « pour qui » ces traditions. Et elle téléphona à mes grands-parents le lundi qui suivait le mariage. C'est le jour de la fête des pères. Passé la stupéfaction de la nouvelle, inutile de vous parler de la blessure familiale qui s'en suivit. Ma mère, refaisant inlassablement un lien qui n'avait jamais existé avec ce type parti faire la fête sur la Riviera, avait acheté une petite lampe de salon qu'elle comptait leur offrir pour la fête des pères. Elle appelait pour s'excuser de ne pas l'avoir encore envoyée. Mais ne voulant pas déroger, elle ordonna à mon frère de se rendre à la poste. Celui-ci me confia des années plus tard avoir consciencieusement massacré le colis avant de le confier aux bons soins du facteur. Ma grand-mère appela quelques jours plus tard pour remercier ma mère de ce présent qui avait sans doute déjà rejoint la poubelle. Mais revenons à mon père. Il s'appelle Jean, mais bien entendu, tout le monde l'appelle Roger ou bien Gégé. Le premier jour, il invite ma mère à dîner. Il prétexte le vol de son portefeuille pour ne pas payer la note. Elle sait bien que c'est faux. Il y a, dans cette branche paternelle, un héritage de plus grande valeur que les terres ou les fermes. Arriver à faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Et puis poursuivre dans le mensonge. Quoi qu'il arrive, ne jamais s'arrêter, toujours fuir. Et si c'est pas avec ses jambes, c'est avec les mots. Partir, revenir. Le jour de leur mariage, en 68, mon grand-père Fifi ne vient pas. Il a des trucs à faire. Je suis à peine née qu'un soir, mon père rentre avec un œil au beurre noir. J'ai pris une porte au boulot. Après pas mal de questions, Jean-Roger Gégé finit par avouer qu'il tournait de manière insistante autour de la femme d'un collègue. Le collègue en question lui a dit sa manière de penser en lui collant un pain dans la gueule. Pas de chance pour ce premier coup manqué. les maîtresses de mon père seront tellement nombreuses par la suite que je redoute de faire un test ADN pour à mon tour prolonger l'héritage familial et me découvrir une douzaine de demi-frères et sœurs partout en France. Mon père s'est trompé de femme. Il s'est trompé de vie par la même occasion. Elle ne l'intéresse pas. Il ne l'aime pas. Il est dans les affaires, comme son père. Elle est fonctionnaire, donc feignasse. Il l'a épousée parce qu'il voulait la baiser légalement. Mais elle le lasse rapidement. Plus ennuyeux, c'est qu'elle s'accroche. Elle va s'accrocher pendant 30 ans avant de le mettre dehors. Ce jour-là, mon frère et moi, nous ne sommes pas là, mais Jean-Roger Gégé tient une valise à la main, comme son propre père des décennies auparavant. Il revient du Portugal où il s'est payé une semaine pour affûter son swing de golf. Là encore, c'est une histoire de seuil. Il n'a même pas le temps d'entrer dans la maison que déjà il est dehors, en portant le chien avec lui. Le chien représente chez mon père sa partie la plus fidèle et la plus joyeuse. Mon père s'est trompé de femme, il s'est trompé de vie. Comment voudriez-vous qu'il ne se trompe pas d'enfant? Il en a deux qu'il n'a pas voulu. Ils sont là, des chiards qui l'emmerdent à vouloir jouer avec lui, à lui poser des questions, à vouloir l'accompagner partout, qui leur offre des glaces. Le plus souvent, il s'arrange pour être seul. Moi aussi. Seul est l'espérance de toute sa vie. Seul pour faire la fête avec les copains. Seul avec ses maîtresses, seul au boulot, beaucoup de boulot, se prolongeant très tard le soir. Ça permet d'être à la maison, aux heures creuses, comme un tarif EDF. Seul, mais bien entouré, faut pas pousser quand même. Mon daron est un flambeur. Il se prend pour le grand camp, se retrouve souvent comme un petit con. Il fait des affaires. Certaines marchent, d'autres non. Quand il fait des dettes, ce qui lui arrive régulièrement, il s'arrange pour ne pas les payer. Ou alors c'est sa femme qui comble les trous. La fonction publique, ça a du bon. Plus il avance dans la vie, plus il s'éloigne de sa famille, qui d'ailleurs n'est sa famille que sur le papier. Il côtoie le monde, parle avec Bidule qui connaît machin, qui paraît qu'il a un château et que même on va l'y inviter. Il raconte partout qu'il va changer sa voiture pour une autre, qu'elle est mieux mais qu'on ne verra jamais. Sauf une fois, où il fait croire à tout le monde que le bolide sur le parking est le sien. Ce week-end-là, il est avec sa maîtresse. Laquelle ? Ils sont partis en goguette et la voiture lui a été prêtée par un ami. Gégé a plein d'amis d'un autre milieu que le sien. Et puis un jour, il se fait plus mais mieux qu'une dinde à Thanksgiving. Il découvre avec amertume que dans ce milieu qu'il fréquente, et où nous sommes rarement conviés, on n'a pas d'amis, juste des intérêts. Et après avoir remboursé le capital pendant 5 ans, il devra aussi les payer, les intérêts. Ses amis sont partis, aussi rapidement qu'ils étaient venus. Téléphone sonne dans le vide. Le vide est son nouveau prénom. Il est aigri, malheureux. Sa femme touche mi-salaire pour payer ses fadaises, mais il mettra un point d'honneur à oublier ce détail. Ces histoires de remboursement si vulgaires, c'est sa conception de la noblesse du cœur. Au fond, il reste le jeune homme du restaurant qui n'a toujours pas retrouvé son portefeuille. S'accroche un peu, fait croire encore, et joue des claquettes devant un public de cabaret de province assoupi. Mais l'âge venant, il a pris du poids, il est moins souple, plus ridé et rapidement plus du tout crédible. Sa vraie solitude, c'est ça. Quand plus personne ne le regarde, à part son miroir. Et l'image qui lui renvoie le projette dans ce monde disparu. Il se met à parler de gens dont il n'a plus de nouvelles depuis 20 ans, parce que machin qu'il a croisé dans la rue lui a dit que bidule, ressasse sans cesse, trouve un nouveau public éphémère auquel raconter ses souvenirs de la coloniale, revient parfois sur ses lieux d'infortune, tentant de retrouver sa grandeur en cherchant des morceaux d'hier dans les gravats d'avant-guerre, comme le chante Alain Souchon. Mais le casino n'est plus qu'un tas de pierres. Il s'est trompé, il a trompé. Il attend que sa femme le foute dehors pour aller se faire voir ailleurs, un coin au calme où il pourra mener encore ses combats tristes avec sa nouvelle compagne, une copine de sa femme, plus jeune et qui lui ressemble tant. Un jour, c'est chose faite. Il a si peu de courage qu'il faut décider pour lui. Et inévitablement, on en arrive à moi. Le nom tout en bas de l'arbre généalogique. Je me suis installée avec Patrick. J'ai connu tant d'échecs amoureux qu'en faire le décompte serait plus long que vider une piscine à la paille. J'ai atteint l'âge où avoir des enfants relève du défi. Je me suis fait une raison. Patrick est un type bien. Il a tout pour lui. Un sourire avec des fossettes, un goût prononcé pour les sorties, une attention et une gentillesse à toute épreuve. Il sait écouter et ne parle qu'en mots choisis. Il ne frime pas, ne m'a jamais trompé. Nous voit bien sur le toit du monde, espère beaucoup, regarde ici et là-bas. Il est optimiste par nature et insouciant par éducation. N'achète jamais deux fois la même bouteille de vin. Observe le monde toujours sous le bon angle, celui qui éclaire. Il tente de partager cette confiance dans la vie qui toujours m'échappe. En somme, tout est réuni pour qu'on soit heureux. Heureux est un mot que je déteste. Tu es amoureuse ou tu ne l'es pas. Et je le suis. Comme les femmes avant moi, à fond et sans calcul. C'est pour cette raison que ce matin, j'ai fait ma valise. Juste avant de partir bosser, Patrick m'a fait rire. Il a ri aussi, de ce rire si communicatif. Il ne se doute de rien. Je conserverai son rire comme un autre passeport. Quand il rentrera ce soir, il trouvera un mot sur la table du salon, posé près de l'arbre généalogique. Ne comprendra pas, souffrira sans doute. Mais c'est décidé. Je pars de peur qu'il ne me quitte. Je choisis la solitude pour ne pas qu'on me l'impose. Je brise la chaîne des femmes esselées, définitivement.